Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc, texte de la liturgie catholique pour la fête de l'Ascension. Enfin, Jésus se fait voir aux 11 qui sont attablés. Il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas eu foi en ceux qui l'ont contemplé réveillé de la mort. Il leur dit :
Allez dans le monde entier pour proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui a cru et a été baptisé sera sauvé. Celui qui n'a pas cru sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils expulseront les esprits du mal. Ils parleront des langues nouvelles. Dans leurs mains, ils prendront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur nuira pas. Aux malades, ils imposeront les mains et ils iront bien.
Donc, après leur avoir parlé, le Seigneur Jésus est enlevé au ciel et s'assoit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en vont prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirme la parole par les signes qui l'accompagnent.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Nous avons ici les ultimes paroles de Jésus qui sont entièrement tournées vers l'avenir. Le ressuscité promet de ne pas abandonner ses disciples, mais de les accompagner tout au long de l'histoire.
Eh bien, ces versets 9 à 20 du chapitre 16 de Marc posent bien des problèmes aux spécialistes, car la plupart pensent que ces versets sont de la main d'un autre auteur que Marc. D'ailleurs, plusieurs manuscrits anciens de Marc ne comportent pas cette finale. Quelques-uns même précisent que le verset 8 marque la fin du récit. D'autres manuscrits, enfin, ont une version plus courte à la place des versets 9-20. On a, d'une certaine manière, peine à admettre que l'évangile de Marc s'arrête brusquement au verset 8 qui dit que les femmes sortent du tombeau, qu'elles s'enfuient et qu'elles ne disent rien car elles ont peur. D'où la supposition que la finale primitive du récit a disparu pour une cause qui est inconnue de nous et que la finale actuelle a été rédigée d'une certaine manière pour combler la lacune. Ces versets se présentent en effet comme une sorte de résumé des apparitions du ressuscité telles qu'on les trouve dans les autres récits. On y mentionne l'apparition à Marie de Magdala et aux deux disciples de la route d'Emmaüs. Ce sont les versets 9 à 13. Et vient enfin notre texte, la manifestation aux 11, réunis pour les dernières consignes.
Proclamer l'Évangile.
Le récit évangélique de Marc s'ouvrait déjà sur ce mot évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans les écrits bibliques chrétiens, le mot évangile, employé seul et sans complément, n'est employé que par Marc et par Paul. C'est un mot grec qui signifie « annonce de bonheur » et que l'on traduit souvent par « bonne nouvelle ». Le mot hébreu qui correspond, « bezoretta », décrit la prédication orale des rabbis, c'est-à-dire de ceux qui sont les interprètes de la Torah qui est l'enseignement de Dieu contenu dans les écrits bibliques. Eh bien, comme tout rabbi, Jésus a scruté les écrits bibliques pour en forger son propre commentaire. Mais, contrairement à la plupart des rabbis qui ajoutent des prescriptions supplémentaires, le rabbi Jésus sera au contraire celui qui simplifie pour aller à l'essentiel.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau des prescriptions. Mettez-vous à mon école, mon fardeau est léger.
Au moment de quitter les siens, Jésus leur donne mission de continuer à prêcher son évangile, c'est-à-dire son message, son interprétation de la Torah de Dieu. Le message de Jésus sera, pendant de nombreuses années, transmis oralement comme Jésus l'avait fait. Et ce n'est que après 20 ans, au moins, qu'il sera mis par écrit. Mais l'Évangile est plus qu'un message et plus qu'un livre. Il est la parole de Jésus, la description de ses actes. Et il permet à ceux qui n'ont pas vu Jésus sur les routes de Palestine de pouvoir faire véritablement sa rencontre, car Jésus est toujours vivant. Et son esprit fait revivre pour nous, aujourd'hui, ses paroles et ses actes. Il le fait revivre en ceux qui sont prêts à faire cette rencontre spirituelle avec lui. Oh, bien sûr, cette rencontre n'est pas physique au sens terrestre, mais elle n'en est pas moins réelle. La résurrection, en effet, n'est pas le retour à la vie terrestre, comme cela a été le cas pour Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Non, la résurrection, c'est un au-delà de la mort, et qui va nous faire vivre d'une façon autre. Au-delà de la mort, notre être ne sera plus soumis aux lois de l'espace et du temps, puisqu'il sera immortel, purement spirituel. Écoutons ce que l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, tente pour décrire cette vie au-delà de la mort.
Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Sommet incorruptible, on ressuscite incorruptible. Sommet dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Sommet corps animal, on ressuscite corps spirituel. Le premier homme, Adam, fut un être animal doué de vie. Le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Et de même que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Celui qui a cru et a été baptisé sera sauvé. Celui qui n'a pas cru sera condamné.
Eh bien, cette formule peut nous faire problème, car certaines sensibilités d'aujourd'hui n'aiment guère ces condamnations lapidaires. Disons d'abord que le style biblique a souvent des énoncés binaires, croire et ne pas croire, sauver et condamner. Et on énonce le négatif uniquement pour souligner avec force l'affirmation positive, croire, sauver. D'autre part, cette affirmation doit se comprendre de ceux qui ont été mis en contact avec l'Évangile et qui peuvent donc y trouver le salut. Elle ne parle donc pas de ceux qui n'ont pas pu connaître l'Évangile ou qui en ont eu une connaissance tronquée et fausse. Il ne faut donc pas étendre la formule aux milliards d'êtres humains qui sont nés avant le Christ, pas plus qu'à ceux qui auront vécu en des régions du globe où l'Évangile n'aura pas pénétré. Mais pour le disciple qui fait la rencontre de Jésus, comment comprendre ce salut? Le récit des Actes donne de nombreux exemples de ceux dont la vie a été bouleversée par la rencontre de Jésus et de l'Évangile. Déjà le jour de la Pentecôte, Pierre proclame Jésus à la foule des pèlerins.
Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Mais que signifie ce salut dont va bénéficier le baptisé? Dans le contexte de l'Évangile, croire ne signifie pas d'abord admettre l'existence de Dieu ou du ressuscité. Il s'agit surtout de mettre sa confiance en Jésus et d'engager sa vie à sa suite. Et engager sa vie à la suite de Jésus, c'est avoir confiance dans la force de l'amour. Malgré le péché, malgré la force du mal, la bonté généreuse est possible. Voilà ce que veut dire avoir confiance, croire en Jésus. Et elle est possible parce qu'il peut, le disciple peut s'inspirer de Jésus, au sens fort du mot « inspirer », qui signifie puiser son souffle de vie dans la personne du ressuscité. Le baptême consiste précisément à se plonger dans la vie et l'amour du Christ. Le secret de la vie véritable, c'est d'aimer de gratuité et de bonté, et cela est possible pour celui qui accueille le Christ dans sa vie, afin que le Christ vive avec lui cette décision d'aimer sans condition son prochain. Olivier Clément, dans le livre Source, exprime bien comment se situe le Christ vivant dans nos vies.
Dans le monde déchu, l'unité des hommes est brisée, tout est combat de reptiles. Et j'essaie de me délivrer de l'angoisse qui me tenaille en la projetant sur l'autre, le bouc émissaire de ma finitude tragique. L'autre est toujours mon ennemi et j'ai besoin qu'il le soit. En Christ, la mort est vaincue, mon enfer intérieur transformé en église. Je n'ai plus besoin d'ennemis, personne n'est séparé de personne. Le critère de l'approfondissement spirituel se précise donc en amour des ennemis, selon la paradoxale injonction évangélique qui ne prend sens que par la croix, celle du Christ et la nôtre, et par la résurrection, celle aussi du Christ et la nôtre.
Mais malheureusement, celui qui se refuse à accueillir la puissance d'amour qui est dans le cœur du Christ, celui-là va se priver de la force qui pourrait lui permettre de vaincre en lui tout ce qui est égoïsme. Il se prive de la force qui peut lui permettre d'aimer de gratuité, et cela peut le condamner à la mort spirituelle.
Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris.
Bien, rappelons-nous d'abord, en entendant ces paroles, comment dans la pensée du temps, maladie et mal moral sont liés. La force d'amour de Jésus est une puissance contre le mal du péché. Et par cette force d'amour, Jésus va guérir des cœurs, et la guérison spirituelle va entraîner la guérison physique. Par l'Esprit de Jésus ressuscité et vivant, les disciples pourront eux aussi délivrer des gens de leurs blessures morales et physiques et les aider à retrouver la paix du cœur. Les actes des apôtres en donnent des exemples.
On en venait à sortir les malades dans les rues, afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. Des gens que tourmentaient des esprits mauvais, étaient guéris.
On trouve un autre exemple qui montre comment le diacre Philippe proclame le Christ dans une ville de Samarie.
Les foules unanimes s'attachaient aux paroles de Philippe, car on entendait parler des miracles qu'il faisait et on les voyait. Beaucoup d'esprits impurs, en effet, sortaient de ceux qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris.
Le disciple qui se laisse vraiment inspirer par l'amour divin, devient source d'inspiration pour son prochain. Et il peut alors l'aider à se libérer de la haine, du ressentiment, de l'agressivité. Il peut l'aider à pardonner. Cela non pas seulement par ses conseils, mais surtout par son amitié. Une amitié tout entière inspirée de l'amour du Christ. Et c'est cette communion qui va apporter une véritable guérison.
En mon nom, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal.
On sait que le serpent est le symbole de l'esprit du mal. En envoyant en mission les 72 disciples, Jésus leur avait dit : « Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole fait sans doute référence au psaume 91.
Sur l'aspic et la vipère, tu marcheras. Puisqu'il s'attache à moi, je suis avec lui dans la détresse, je le délivre.
C'est dans le fond une autre manière de dire la force de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui peut nous donner la force de vaincre le mal sous toutes ses formes. Citons encore un passage des apôtres, des Actes des apôtres, qui rapporte cette expérience assez surprenante de l'apôtre Paul.
Paul avait ramassé une brassée de bois mort et la jetait dans le feu, lorsque la chaleur en fit sortir une vipère qui s'accrocha à sa main. À cette vue, les autochtones se disaient « Cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permet pas de vivre. » Paul secoua la bête dans le feu sans ressentir le moindre mal. Alors, changeant d'avis, il répétait « C'est un dieu. »
Alors, rappelons-nous pourtant que Jésus manifeste souvent une certaine réserve devant la demande de gens qui sont surtout avides de prodiges spectaculaires. Rappelons sa réponse à l'officier royal de Capharnaüm.
Si vous ne voyez signes et prodiges, vous ne croirez donc jamais.
Et celle qu'il fait aux scribes et aux pharisiens.
Génération mauvaise et adultère, qui réclame un signe? En fait de signe, il ne lui sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas.
Et quel est le signe donné par Jonas aux païens de Ninive? Eh bien, ce signe, c'est celui de la certitude que Dieu n'est que miséricorde et qu'il pardonne à tous ceux qui accueillent son pardon d'amour. L'efficacité de la parole de Jésus ne porte pas d'abord sur des miracles extérieurs, elle touche avant tout le secret du cœur et de la conscience pour susciter un éveil à l'amour. L'essentiel est la foi en Jésus, la confiance totale en sa parole comme source de vie et comme inspiration pour vivre d'amour et de pardon. Après les premiers disciples, et aujourd'hui encore, le Seigneur de l'Église et du monde continue à faire signe aux hommes, parfois par des miracles physiques. Ceux-ci sont devenus maintenant une arme très exceptionnelle des ouvriers de l'Évangile, parce que ce sont plutôt maintenant des signes plus spirituels, comme la constance, l'assurance, le désintéressement des missionnaires, signes spirituels comme la qualité interne du message de l'Évangile, signes spirituels comme peut l'être l'unité et la sainteté d'une communauté chrétienne. Voilà les signes habituels grâce auxquels la parole agit dans les cœurs.
Allez dans le monde entier pour proclamer l'Évangile à toute la création. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles.
C'est à toute la création, à tous les peuples, que l'Évangile doit être proclamé. Le jour de la Pentecôte, les apôtres vont être en effet entendus dans la langue de ceux qui les écoutent, comme l'Esprit leur donne de s'exprimer.
Tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu.
Peu après, Pierre sera le témoin que Dieu visite aussi les païens et que le message de l'Évangile n'est plus réservé seulement aux Juifs. Il se trouve en effet dans la maison de Corneille, un centurion romain, quand l'Esprit-Saint tombe sur tous ceux qui ont écouté la parole.
C'est la stupeur parmi les croyants circoncis juifs qui ont accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit-Saint est maintenant répandu. Ils entendent ces gens parler en langue et proclamer les merveilles de Dieu. Pierre reprend alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit-Saint? Il donne alors de les baptiser au nom de Jésus-Christ.
Parler d'autres langues, c'est donc annoncer cet évangile dans la langue de ceux qui vont l'entendre, afin de les rejoindre dans leur propre façon de penser. Là d'ailleurs, où l'Esprit-Saint leur parle déjà. Désormais, en effet, l'Évangile devra dépasser toute frontière. Les disciples de Jésus s'en iront prêcher partout, comme dit le récit de Marc. Ce récit de Marc avait d'ailleurs déjà annoncé cette ouverture au monde entier, dans la personne du centurion païen qui se tenait au pied de la croix.
Voyant qu'il avait ainsi expiré, il dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ».
L'apôtre Paul va se consacrer à l'annonce de l'Évangile dans tous les pays de la mer Méditerranée. Oh, il n'aura pas toujours la tâche facile, car Jacques, celui qu'on appelle le frère du Seigneur, et la famille de Jésus semblent avoir contrôlé la communauté de Jérusalem, qui était considérée comme la mère de toutes les églises. Jacques et les Juifs devenus chrétiens autour de lui s'efforcent de sauvegarder un lien avec les traditions juives et ils veulent imposer aux païens qui se convertissent à l'Évangile de suivre certaines coutumes juives.
Quant aux païens qui sont devenus croyants, nous leur avons écrit nos décisions. Se garder de la viande de sacrifice païen, du sang, de la viande étouffée et de l'immoralité.
Mais finalement, après la mort de Jacques et après la chute de Jérusalem en 70, ce sera la vision de Paul qui va l'emporter et qui permettra l'expansion du christianisme dans le monde païen. Aujourd'hui, Nous donnons à cette mission d'annoncer l'évangile en tout lieu le nom un peu barbare d'inculturation. Jacques Leuve, un des grands témoins de l'évangile du XXe siècle, s'exprime ainsi dans Le Bonheur d'être homme.
Aujourd'hui, l'Église, en tout lieu, doit se dépasser, s'ouvrir aux richesses des cultures, des civilisations. D'où ce mot technique, barbare mais exact, inculturation. Il signifie qu'il faut non seulement s'initier à une culture autre, mais c'est l'incorporer en soi, la vivre aussi loin que possible, non pas pour perdre sa propre culture et sa foi, mais pour faire dialoguer en soi les richesses propres à chacune. L'Église, alors, loin de détruire les traditions qu'elle rencontre, s'enrichit de la vocation propre de chaque peuple. Le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu.
L'expression « enlevé au ciel » ne signifie pas que le ciel de notre planète est le lieu où se trouve Dieu. C'est une expression symbolique. Le ciel, les cieux, c'est une image employée par la Bible pour indiquer que Dieu est supérieur à nous, qu'il est le vivant éternel, mais qu'il est aussi invisible, dans un au-delà inaccessible à nos yeux mortels. Être enlevé au ciel signifie que Jésus vit maintenant dans la pleine communion avec le Père. Il est assis à sa droite, selon une autre image qui signifie qu'il est tout proche de Dieu. En effet, en Palestine, dans les repas de fête, la droite était la place d'honneur. Et lorsque les convives étaient allongés, deux à deux, sur des banquettes, la tête de celui de droite se trouvait proche de la poitrine de l'autre, tout proche de son sein. Ainsi, pour le disciple que Jésus aimait lors du dernier repas, dont le récit de Jean dit « il était assis, renversé dans le sein de Jésus ». Jésus est enlevé au ciel. Eh bien, Jésus avait déjà parlé de sa mort comme d'aller, de retourner vers le Père. C'est ainsi que s'ouvrent les derniers jours de Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père. C'est ce que Jésus dit aussi à Marie-Madeleine. « Va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père. » C'est que la mort est comme une naissance à une vie nouvelle, le moment ultime où l'être humain peut dire un oui, un dernier oui, à la vie immortelle à laquelle il s'est préparé tout au long de sa vie terrestre. Dans les textes juifs de l'époque de Jésus, c'est une idée assez courante qu'à la mort, ceux qui meurent comme des justes vont en Dieu. Dans le livre du pseudo-Pierre, on peut lire ces paroles de Jésus sur la croix.
Le Seigneur cria, « ma force, tu m'as abandonné. » Et ayant dit cela, il fut enlevé.
Cette foi en l'immortalité est aussi présente dans le quatrième livre des Maccabées.
Ceux qui meurent à cause de Dieu vivent en Dieu, comme Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches.
Rappelons enfin ce que dit le livre de la sagesse.
La vie des justes est dans la main de Dieu. Ceux qui restent fermes dans l'amour demeureront auprès du Seigneur Dieu, car il y a grâce et miséricorde pour ses élus.
Eh bien, parce qu'il a vécu son existence dans une communion d'amour parfaite avec le Père, Jésus entre pleinement dans la vie éternelle, dans la plénitude de l'amour du Père.
Le Seigneur travaille avec eux.
Oui, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est immortel, spirituel, Jésus peut maintenant rejoindre des disciples partout, dans tous les lieux et à toutes les époques de l'histoire. François Varillon, dans « Joie de croire, joie de vivre », parle d'une présence nouvelle, un nouveau mode de présence, non plus extérieur et localisé, mais une présence intérieure et universelle, la vraie présence sur le mode de l'absence. Claudel, interprétant la phrase de Jésus « Il vous est utile que je parte », traduisait ainsi cette absence qui nous est bénéfique. « Il faut que je vous soustraie mon visage pour que vous ayez mon âme. » En effet, si Jésus abandonne le compagnonnage qu'il a vécu avec ses disciples, il leur communique maintenant son esprit. Et alors, au moment où le disciple a des décisions à prendre, il n'est certes plus possible d'interroger Jésus pour qu'il nous dise ce qu'il faut faire, mais il peut et il doit interroger dans la prière l'Esprit du Christ qui est en nous plus nous-mêmes que nous. Et l'Esprit ne va pas lui dicter des décisions, il va inspirer la décision. Car c'est en effet à nous qu'il appartient en pleine responsabilité de prendre des décisions, les décisions qui conviennent pour l'avènement d'un monde plus humain. Le Christ qui est présent en chacune de ces décisions va leur donner une dimension divine.
Le disciple signe de la présence de Jésus vivant.
Oui, en cette finale de Marc se retrouve ce que les autres récits évangéliques présentent comme la mission confiée à ses disciples par le ressuscité. Et cette mission est double. Dans toute l'humanité, il faut témoigner de Jésus présent au monde. Et deuxièmement, il faut vivre de l'Esprit en étant porteur de l'amour divin qui triomphe du mal. Et chaque récit évangélique donne cette double mission à sa manière. En Marc, on parle d'expulsion des esprits mauvais, de guérison. Et ainsi, le disciple parlera des langues nouvelles. En Jean, eh bien, on exprime cela par l'insufflation de l'Esprit. Jésus donne par cela la mission de pardonner. Et on parle aussi de rassembler dans un unique filet les 153 poissons. C'est le symbole des humains de toutes les nations. Dans le récit de Matthieu, Jésus donne mission à ses disciples. Et il leur donne l'assurance de sa présence. Allez, de toutes les nations faites des disciples, en les plongeant dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. En Luc, Jésus demandera de prêcher la conversion et le pardon à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, aujourd'hui encore, chaque disciple de Jésus a mission d'assurer la présence de son Maître ici-bas et de l'assurer en vivant le pardon.
Seigneur mon Dieu, tu es le miséricordieux et tu nous offres d'être miséricordieux comme toi. Tu nous appelles à opposer la bonté à la méchanceté, la douceur à la colère, la générosité à l'avarice, la vérité au mensonge, le pardon à la vengeance. Ce chemin de miséricorde est le seul chemin de la vie. Jamais la haine n'a fait cesser la haine et la force violente n'a jamais conquis les cœurs. Seigneur, en ce monde rempli de violence, que nos cœurs soient pénétrés de ta patiente passion. Que nous soyons témoins de ta miséricorde malgré notre faiblesse et notre péché. Et que nous soyons assez pauvres pour accueillir toujours ton pardon. Nous t'en prions, toi qui es le Dieu de la miséricordieuse résurrection, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.